Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher.
Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur, à CFAQ. Je suis avec M. Pierre Lepage, qui a écrit le livre Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Bonjour, M. Lepage.
Oui, bonjour.
Je vous remercie beaucoup d'accepter de faire cette entrevue. D'entrée de jeu, j'aimerais ça dire que les Autochtones nous ont accueillis, plutôt nos ancêtres, là. Et. À notre tour d'être solidaires avec eux, de les protéger, les survivants. Et vous, vous avez écrit un livre qui nous les fait connaître et qui ouvre la voie au dialogue. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'ai noté qu'il y a à peu près 250 photos, peut-être. Là. Je crois que ça ferait une grosse superficie. Et puis, je pense que moi, ça m'a empêché de faire une lecture linéaire. Indirectement, c'est... On entre dans la voie du cercle, là, qui est la voie autochtone. Je ne pense pas si c'est voulu, mais en tout cas. Et puis, il y a au moins 200 références, je crois.
Oui, les photos, c'est important. Je dis souvent qu'on parle trop, on ne montre pas suffisamment. Alors, on parle des traités, mais on ne les montre pas, des traités. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des territoires, nos territoires, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, d'accord.
Alors, c'est un petit peu pour ça. Puis moi, je pense que c'est un livre qui est facile à lire. Je dis souvent, c'est un livre de paresseux. C'est un peu à mon image, d'ailleurs. Tu n'es pas obligé de tout lire. C'est-à-dire, tu peux l'ouvrir n'importe où, il y a des encadrés. Donc, il y a un côté pédagogique intéressant dans le livre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de succès, là, les premières éditions. Et là, la troisième édition, on l'a lancé en 2019.
Oui.
C'est une édition qui est mise à jour et complétée, c'est-à-dire que le livre a doublé de volume. Et si les premières éditions nous donnaient des points de repère historiques pour comprendre les questions autochtones, ben, avec la troisième édition, j'ai beaucoup traité des enjeux contemporains et, à mon avis, de l'espoir qu'il y a dans nos relations futures là, avec les premiers peuples.
Oui, j'ai vu ça, l'espoir, oui. C'était en 2002, la première, donc ça fait 21 ans au total. Il y a des gens qui n'étaient pas nés et qui sont maintenant des milléniaux, qui sont prêts à agir, oui. Je pense, oui. Et puis, donc, pourquoi que vous avez fait ce livre, finalement?
Ben écoutez, moi, j'ai travaillé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pendant 33 ans, et puis j'étais à l'éducation. Je faisais pas d'enquête, moi, en matière de discrimination. C'était pas le volet judiciaire, mon travail. C'était la promotion des droits et libertés, et prévenir le racisme, la discrimination, promouvoir l'égalité. Au milieu des années 90, les relations avec les Autochtones étaient vraiment détériorées. C'était, je dirais, sur les ondes de la radio, d'ailleurs, on mangeait de l'Indien, pour reprendre l'expression de chef des Premières Nations à l'époque. Alors, ça a été une période extrêmement difficile et il fallait réagir. Plusieurs éléments ont fait que le sentiment anti-autochtone était à son point culminant au milieu des années 90. D'abord, la crise d'Oka de 1990 qui a laissé des séquelles importantes. Durant 5 années qui ont suivi la crise, on se souviendra qu'il y a un policier qui est décédé, qu'il y a eu un conflit qui a duré durant des mois. Il y a eu le blocage du pont Mercier. Il y a des Québécois qui ne pouvaient pas aller au travail à cause du blocage du pont. En solidarité, les Mohawks de Ganawagé, en solidarité avec les Mohawks d'Oka, avaient bloqué le pont Mercier. Alors donc, il y a eu des manifestations anti-autochtones. On a brûlé des Mohawks en effigie. C'était une période vraiment difficile. Et comme alors, c'est, donc, les séquelles de la crise d'Oka, et au milieu des années 90, le choc des nationalismes aussi. On discute de l'avenir du Québec. Alors, on met sur pied des commissions sur l'avenir du Québec. Et là, au cœur des discussions, toute la question des territoires, des ressources. Et s'il y en a qui s'identifient bien, c'est bien les Québécois. Or, les Autochtones aussi. Alors, et là, en pleine période pré-référendaire, il y a un chef autochtone, un chef inuit d'ailleurs, qui déchire la carte du Québec en disant « Si le Québec se sépare, ben voici ce qui arrive. » Alors, c'était pas sa meilleure au plan des communications, là.
Okay.
Mais on voit que les émotions nationales étaient à fleur de peau.
Oui.
Et en même temps, au milieu des années 90, la Nation Cree a entrepris une grande campagne en Europe et aux États-Unis contre le projet du développement hydroélectrique de la rivière Grande-Baleine. Alors, si, alors que moi, de mon point de vue, cette campagne était justifiée, c'était dans leur territoire, elle a été très mal perçue. Elle a été perçue, en plus, ils vont salir notre réputation au plan international. Alors, crise d'Oka, choc des nationalistes, campagne des cris à l'époque. Et c'est vraiment dans ce contexte-là de relations détériorées, de turbulences que s'est créée l'image dominante et omniprésente, et toujours présente, mais beaucoup moins pire actuellement, de l'Indien privilégié, l'exploiteur du système qui ne paye ni taxes ni impôts, celui qui se fait vivre par le fédéral au détriment du bon payeur de taxes.
Oui.
C'est pas des opprimés, c'est des privilégiés du système. Alors, on est versé un peu dans un excès.
Oui.
On s'est mis à fouiller les comptes publics pour essayer de démontrer qu'ils regardez tout ce qu'ils ont, ils payent pas de taxes, payent des impôts, puis regardez les montants que les conseils demandent. Alors, on comparait des choses qui n'étaient pas comparables. Alors, vraiment, une image. Et il y a un sondage d'opinion au milieu des années 90, qui démontrait que 55% des Québécois francophones étaient convaincus que les Autochtones sur les réserves vivaient mieux que les Québécois, et même aussi bien que les Québécois. Seulement 9% des Québécois francophones étaient convaincus que les Autochtones vivaient moins bien que les Québécois.
D'accord.
Alors, cette idée de privilège, là, on privilège, ils ont tout, etc., ça a dominé un peu l'opinion publique. Alors que dans la réalité, bon, on avait la réalité tout à fait à l'opposé de ça. On avait tous les indicateurs du sous-développement chez la plupart des nations autochtones.
Oui, je vois. Excusez-moi.
Alors, donc, il fallait réagir. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ça, réalité.
D'accord. Parce qu'à la page 81.
Oui.
Ben, page 81, vous avez des indices de pauvreté chez les Premières Nations. Là. J'avais plié la page pour vous poser la question, mais c'est correct. Là. Donc, tout ce que vous dites, c'est que c'est ça qui vous a motivé pour écrire le livre.
Absolument. Mais c'est important. La beauté des cultures autochtones au milieu des années 90, ça ne passait pas. Là. C'est les mêmes questions qui revenaient. Ah, les privilèges, puis les taxes, puis les cigarettes, puis les maudites revendications territoriales. Alors, si on ne réussissait pas à répondre à ces questions-là, à donner aux gens des points de repère pour comprendre ce qui se passe. Moi, ça se fait qu'ils ont des droits différents. D'où ça vient? Puis ils payent-tu les comptes d'électricité? Puis ont-tu des maisons gratuites? Puis ont-tu plus de droits que les Québécois? Alors, je me suis mis à l'écoute des émissions de Ligne ouverte. Et je notais ce qu'on entendait. Je lisais aussi dans les lettres des lecteurs, dans les grands journaux. Alors, on voyait des choses. Ils étaient des sauvages, on leur a tout apporté. Ils ont été conquis, ils devraient accepter de s'intégrer, etc. Alors, on voyait dans ce discours qui devenait, à un moment donné, dominant, des risques, des dérapages extrêmement importants. Alors, puis comme je disais tout à l'heure, les revendications territoriales, ils vont-ils arrêter, ils vont dépasser le territoire du Québec, etc., puis ils vont-ils arrêter de nous culpabiliser. Alors, je notais tout ça. Et si vous regardez bien le livre Matérialité, les premiers chapitres, chacun des chapitres reprend des croyances populaires. Et l'objectif, justement, c'est donner aux gens des points de repère qu'on n'a pas comme Québécois. On n'a rien appris, nous.
Oui.
Vraiment rien appris jusqu'à tout récemment.
D'accord.
Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans les programmes scolaires. Il y avait, pire encore, ma génération à moi, donc jusqu'aux années 65-70, on apprenait que les Autochtones étaient des gens sans force morale, sans caractère. C'était marqué dans les livres.
Oui.
Portés vers la débauche, etc. Mais qui étaient-ils? On ne le savait pas. Or, les Autochtones, les gens des Premières Nations qui allaient dans les pensionnats, apprenaient la même chose que nous. Ils avaient honte de leurs origines.
OK.
Alors, heureusement, on a enlevé ça des manuels scolaires au cours des années 1970. Mais en 1980, quand je suis entré à la commission, on a collaboré une étude sur l'image des Premières Nations dans les manuels scolaires du Québec.
Mm-hmm.
Et là, on voyait que, bien sûr, on ne méprise plus les Autochtones ouvertement comme des premiers manuels. Mais après la conquête britannique, Il n'y a plus d'Autochtones au Québec. Ils ne sont plus là. Et moi, dans des ateliers, j'ai eu l'occasion de rencontrer environ 2500 enseignants du secondaire dans des ateliers de sensibilisation. Et je les mettais au défi de me trouver les Autochtones entre la conquête 1760 et la crise d'Oka. Ah, les gens disaient, ah, c'est vrai, on n'en parle pas.
Mm-hmm.
Qu'est-ce
mm-hmm.
qui s'est passé entre les deux, on ne le sait pas.
Mm-hmm. Et oui.
Alors, l'objectif, justement, le livre Matérialité, c'est de nous donner ces points de repère essentiels. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1760 et la crise d'Oka? Alors, évidemment, quand tu reviens à une crise, tu n'as pas de point de repère, bien là, c'est des dérapages. Là.
Don't live by the rules. Wolves don't live by the rules. Wolves don't live by the rules. Wolves don't live by the rules.
Valleys to hills. You can hear the cry. They have to fight to stay alive. No one can change it. Mother Nature knows the reason why. Oh,
wolves don't live by the rules.
Oh,
wolves don't live by the rules.
They're born to kill and to be free. Their life is hard, which is meant to be. The cry of the wild is the only way they can see. Oh,
wolves don't live by the rules.
Oh,
wolves don't live.
Vous avez 10 chapitres.
Oui, exactement.
Et puis l'Université du Québec à Rouen fait passer un examen aux gens qui veulent étudier, je pense, au certificat en études autochtones. sur votre livre. Ils doivent réussir un examen concernant votre livre s'ils veulent étudier là, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Il y a un examen d'entrée qui est obligatoire et il y a même une personne de la Commission des droits. Moi, j'ai quitté en 1999. Il y a une collègue qui est arrivée par la suite. Puis elle s'est inscrite à ce cours-là. Puis elle dit, j'ai été obligée de passer un examen sur ton livre. Heureusement, elle connaissait bien. Elle a réussi. Mais donc, oui, il est beaucoup utilisé par les Premières Nations. Je pense aussi ça les rejoint aussi dans leurs préoccupations. Ils entendent des choses, ils trouvent souvent, surtout les jeunes des Premières Nations, trouvent souvent injuste ce qu'on entend à leur sujet, mais ils n'ont pas eux-mêmes des points de repère. Prenez la loi sur les Indiens. Dans les communautés des Premières Nations, il n'y a personne qui a appris aux gens d'où ça vient,
oui,
de quels droits ils étaient privés, puis comment sortir de ça. Alors, moi, j'ai donné autant de conférences en milieu non-autochtone qu'en milieu autochtone. Alors, maintenant, c'est en train de changer parce que dans les nouveaux programmes, évidemment, la question autochtone est à l'ordre du jour.
Oui.
Même dans les écoles québécoises, avec la révision des programmes en histoire, bon, ben, il y a une amorce. On va parler des politiques d'assimilation, on va parler des pensionnats. C'est pas complet, mais au moins, il y a là des éléments importants pour mieux comprendre la question autochtone.
Oui, puis je crois que quelqu'un a compris. Là. Je vous cite Daniel Sioui, qui a créé les éditions Anénorak, qui a publié en 2021 le livre « Indien stoïque ». Il dit à la page 62, « C'est vrai que depuis les dernières années, on sent un super engouement de la part des Québécois qui désirent en apprendre davantage sur nos cultures. C'est merveilleux, surtout pour quelqu'un comme moi qui vit grâce à cet engouement. Mais il reste tellement de chemin à faire. Je suis certain qu'en combinant nos forces, on va pouvoir faire de grandes choses. Je crois réellement que nous, les Autochtones, avons quelque chose à apporter à la société occidentale et que nous sommes la petite étincelle qui manque pour que ça marche, cette grosse affaire-là. » Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis il y a M. Georges Sioui, là, qui aussi qui a écrit pour une auto-histoire amérindienne, c'est super. Puis également, Sipi Flamand, je pense que vous le connaissez peut-être, qui a écrit un
livre. J'ai vu son livre, je l'ai donné justement à la blonde d'un de mes garçons,
okay,
à Noël, là, mais je l'ai parcouru rapidement, mais j'aimerais ça, je vais le racheter là, pour
ils sont
moi,
loin,
là, pour,
ils sont très nationalistes, ouais, et je dirais multinationalistes, dans le sens qu'ils veulent une confédération autochtone souveraine pour s'autodéterminer, là. Fait que ça rappelle le langage des gens du Parti québécois de 1970. Fait que c'est peut-être eux qui vont faire la souveraineté, je sais pas.
Oui. Je fais un parallèle, d'ailleurs, dans la nouvelle édition avec... il y a un chapitre qui s'appelle « Un avenir rempli d'espoir », mais je fais un parallèle aussi avec la révolution tranquille des Québécois.
OK.
Et il y a quelques années, à l'Université du Québec, à Chicoutimi, j'ai fait une conférence justement sur est-ce que les Autochtones sont en train de vivre leur propre révolution tranquille. C'est le maître chez nous là, qui a été un peu l'élément déclencheur de la révolution tranquille. Je l'entends, moi, chez les Autochtones. C'est arrêter d'être des porteurs d'eau, c'est un peu le...
Oui.
Pour reprendre les termes de René Lévesque, là, arrêter de subir le développement. Les gens disaient, on va arrêter de revendiquer, on va s'affirmer. Alors, il y a toute une nouvelle génération de leaders, de nouveaux leaders, un nouveau discours, une nouvelle approche aussi. Alors, on devrait comprendre ça, nous, les Québécois. Il y a l'émergence d'une très grande fierté identitaire.
Mm-hmm.
On n'avait pas ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Écoutez, les gens là, avaient honte des Autochtones. Donc, c'est assez récemment là, dans l'histoire.
Oui. Moi, je ne le savais pas.
À mon avis, et puis donc, il y a une mobilisation des jeunes et il y a une ouverture aussi. C'est vrai qu'il y a des événements qui aident peut-être. Il y a eu des électrochocs, je pense, par exemple, la découverte des enfants autochtones, des sépultures anonymes là, dans les pensionnats, qui a beaucoup... la question des enfants autochtones disparus ou assassinés, etc. Donc, voilà une actualité qui nous touche beaucoup, les Québécois, qui nous choque aussi.
Oui.
Donc, je pense qu'on sent maintenant qu'il y a une ouverture. Il y a des alliances aussi avec la société québécoise qui n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Oui. Il y a M. Sioui qui suggère que les municipalités devraient réserver des sièges aux Autochtones pour les conseils municipaux. Fait que moi, je vais aller demander là, à mon conseil municipal à Sherbrooke.
Oui, bien, il faut voir. Il y a quelques années une alliance des municipalités voisines des communautés autochtones.
OK.
Et il y a aussi des municipalités, notamment, qui accueillent chez eux des centres d'amitié autochtone. Il y a un réseau des centres d'amitié autochtone. Il y en a un à Sainte-Terre, il y en a un à Val-d'Or, à Chibougamau, à Joliette, il y en a à Chicoutimi, etc., à Montréal, à Québec. Alors, il y a tout un réseau maintenant, et il y a eu, il y a quelques années, justement, une alliance ou une espèce d'alliance entre des municipalités voisines de communautés autochtones et des communautés autochtones, notamment des centres d'amitié autochtones.
Mm-hmm.
Alors, de ce côté-là, à mon avis, c'est vraiment intéressant.
D'accord.
Mais avec la Commission Vérité et Réconciliation, la Commission Vérité et Réconciliation a fait des recommandations ou des pistes d'action dans tous les domaines. Il y en avait. Alors, suite aux recommandations, on a vu, par exemple, des institutions d'enseignement prendre des mesures, justement, pour mieux accueillir les Autochtones, pour questionner leur mode de fonctionnement. La même chose au niveau des municipalités. Alors, je pense que la Commission Vérité et Réconciliation a eu un rôle très important dans les démarches là, positives ou dans l'ouverture des institutions québécoises à l'égard des premiers peuples.
Oui. M. Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, est très content de vous, là. Il dit que c'est un baume pour l'humanité, ce livre-là, et que ça nous aide à construire un meilleur avenir à coup d'éducation et de sensibilisation. Alors, tant mieux si votre livre fait tant d'effet. Concernant la COP15, par exemple, à la page 92, vous dites qu'il y a des 30 communautés autochtones qui ont établi ou sont en voie d'établir un programme de gardien du territoire, puis ils ont des gens spéciaux là, pour... des agents territoriaux qui veulent une bonne pratique. Fait que pensez-vous que pour la COP15, justement, il y a des cibles qui veulent inclure les Autochtones? Je pense que c'est bien parti, là, parce qu'avec les programmes des gardiens du territoire.
Oui, bien écoutez, j'ai pas pu suivre. Je peux pas vous en dire davantage là-dessus parce que j'ai pas pu suivre là, tout ce qui s'est passé. Là. J'ai écouté un petit peu aux nouvelles, comme tout le monde. Là.
OK, OK.
Je sais qu'il y a des gens, par exemple, du côté des Innus, il y avait un groupe de gardiens du territoire, gardiens des sites sacrés, par exemple, qui étaient présents à la COP15. Je sais qu'effectivement, ce réseau des gardiens du territoire a été présenté ou a fait des représentations. Alors, ce sont, à mon avis, des choses tout à fait intéressantes. Oui, je pense que... Et c'est pas nouveau, d'ailleurs, qu'au plan international, on s'intéresse aux questions autochtones hein, en matière d'environnement. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement, justement, a fait des réflexions là-dessus sur l'importance des Premières Nations aussi.
Oui.
Qui étaient souvent des premières victimes du développement et de la pollution et autrement. Là.
Oui.
Alors, de ce côté-là, je pense qu'il y a quand même de l'espoir et de l'ouverture. Puis je pense que les Autochtones peuvent contribuer énormément. Il y a plusieurs années, il y a une trentaine d'années, les Autochtones n'étaient pas présents sur la scène internationale.
Mm-hmm.
Mais il y a eu 30 ans de militantisme au plan international. Et maintenant, il y a une déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Oui, monsieur.
Qui est important.
Oui, c'est...
Donc, que ce soit en matière d'environnement ou en matière de droits des peuples, il y a quand même une ouverture importante là, sur la scène internationale.
Oui, justement, ce matin, je lisais Georges Sioui qui disait qu'à la fin de son livre, ensuite, que l'on fasse une première place aux nations de l'Amérique, les nations autochtones, à la table d'Assemblée des Nations unies. C'est un souhait de monsieur Sioui.
Oui, bien, assez curieusement, l'oncle de Georges Siwi, Jules Siwi, et d'autres, William Comanda, qui était un Algonquin, qui est décédé il y a quelques années, qui est un grand, grand personnage. Ils ont fondé aux alentours de 1943-1945 le gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord, un gouvernement autochtone. Ben, il y en a qui sont allés en prison pour ça. Ils ont été accusés de conspiration séditieuse. Et Jules Siwi est allé aux Nations Unies. Et d'ailleurs, la proclamation de ce gouvernement autochtone, de ce projet de gouvernement autochtone, à l'époque, qui était vraiment audacieux, faisait référence à la Charte des Nations Unies, qui reconnaissait le droit des peuples,
oui.
des peuples, des nations grandes ou petites, à l'égalité et la liberté. Puis on dit dans la déclaration, faisant en sorte d'être reconnu comme une véritable nation. Alors voilà, c'est pas nouveau ça que les gens revendiquent d'être des nations souveraines et indépendantes. Mais jusqu'aux années 70, prétendre être une nation et avoir des droits en tant que nation, et c'était jugé irrecevable.
Oui.
Hein, la politique qui est en vigueur, c'était une politique d'assimilation. C'était pas de reconnaître des droits.
Mm-hmm.
C'était de faire des Autochtones des citoyens comme tout le monde.
Oui,
donc, et c'était clair, on le disait dans la politique, on le disait à la Chambre des communes, notre politique est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada.
Mm-hmm.
C'est clair. Il n'y avait rien de caché là-dedans.
Oui, vous nous apprenez qu'il y a 11 nations.
On voulait faire disparaître les Autochtones.
Oui.
Alors, évidemment, je donne souvent un exemple sur l'histoire politique des Premières Nations. Moi, je suis Québécois. Je connais mon histoire politique. Je connais les René Lévesque, les Jean Lesage, les Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, moi, je l'haïssais, mais je le connaissais, au moins.
Mm-hmm.
Et les grandes étapes, tu sais, les patriotes, et puis tout ça, puis la Révolution tranquille, puis bon, c'est riche, il y a beaucoup de livres. Demandez à un jeune des Premières Nations, c'est quoi votre histoire politique?
Mm-hmm.
Avez-vous une histoire politique? Mm-hmm. On n'a jamais entendu parler.
Oui.
Et même les jeunes des Premières Nations, à part le chef, le père du chef peut-être, on a un petit peu entendu parler. Et pourtant, il y a une riche histoire politique. Mais tout le problème, c'est que tous les mouvements politiques qui allaient à l'encontre de la politique fédérale d'assimilation ont été combattus par le gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier qu'en 1929, le chef Descaé, qui venait de la réserve des Six Nations en Ontario, est allé à la Société des Nations pour être reconnu en tant que nation distincte. Et pendant qu'il était là-bas, le gouvernement a imposé des élections dans sa communauté. Un vrai coup de cochon à l'époque.
Mm-hmm.
Et le chef Descaé a été déclaré inapte à représenter sa nation. Et pourtant, Descaé a passé une année à Genève. Il a obtenu l'appui de certains pays, justement pour... Et il voulait... il a demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur un litige entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Six Nations. Et malheureusement, il est mort en exil une année après son voyage là-bas. Alors, donc c'était, et il y a eu une contre-offensive du gouvernement du Canada et du gouvernement britannique pour déclarer sa démarche futile, inappropriée, etc., que les Autochtones étaient des citoyens, il y avait la possibilité de devenir des citoyens canadiens, etc. Alors, il y a eu constamment des mouvements politiques et malheureusement, ces mouvements-là ont été combattus par le gouvernement fédéral.
Mm-hmm.
Même chose, Fred Love, un héros de la Première Guerre mondiale qui met sur pied un mouvement indien à travers le Canada. Et là, on met dans la loi sur les Indiens, c'est aux alentours de 1920-1925, et on met dans la loi sur les Indiens une disposition qui dit, sur simple recommandation des affaires indiennes du surintendant, un Indien peut être déclaré émancipé. Or, quand tu es déclaré émancipé, tu n'es plus un Indien.
Mm-hmm.
Tu n'as plus le droit d'être sur une réserve indienne.
Mm-hmm.
Alors, Fred Love va être déclaré émancipé. il n'a plus le droit d'être sur une réserve indienne. Imaginez, il ramassait de l'argent, on introduit dans la loi une disposition interdit de ramasser des fonds sans l'autorisation expresse du surintendant des affaires indiennes.
Mm-hmm.
Ouais, les Indiens Nishgal de la Colombie-Britannique ont fait une revendication contre le gouvernement fédéral et contre la Colombie-Britannique. Et là, ils vont même tenter des recours à Ottawa, et même, ils vont rencontrer le roi, ils vont embaucher un avocat. Et là, on interdit, dans la loi sur les Indiens, toute poursuite à l'égard du gouvernement fédéral est interdite. Alors, les gens sont faits à l'os, là.
D'accord.
C'est vraiment une période d'une tutelle pure et dure. Alors, et c'est une histoire qu'on ne connaît pas et que même au sein des Premières Nations, on connaît très peu.
Oui, votre livre corrige la situation.
Pardon?
Votre livre corrige la situation. Par exemple, à page 97, vous parlez des 11 nations réparties dans 55 communautés puis trois grandes familles culturelles. C'est très intéressant à lire, là. Ça nous sort de l'ignorance.
Effectivement, c'est parce qu'on part de loin. On part de vraiment loin. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a des choses assez intéressantes. Ce qui fatigue beaucoup les gens, c'est toute la question des prétendus privilèges. Hein? Les Autochtones ont tout. Alors là-dessus, justement, d'où ça vient qu'ils ont des droits différents? Est-ce que ça va à l'encontre du droit d'égalité d'avoir des droits différents? Est-ce qu'on devrait tous avoir les mêmes droits au Québec? On n'est pas raciste parce qu'on pense qu'on devrait tous avoir les mêmes droits, mais c'est peut-être pas une bonne interprétation de ce que c'est véritablement le droit d'égalité.
Oui.
On ne peut pas évoquer un droit individuel à l'égalité pour prôner l'assimilation d'un groupe, pour prôner la disparition d'un groupe. Alors, on parle de droit des individus à l'égalité, mais on parle aussi de droit des peuples à l'égalité, à la liberté.
Oui.
Alors, et dans la Constitution canadienne, les Autochtones ne sont pas des citoyens comme tous les autres. Ils n'ont jamais été, d'ailleurs, ni sous le régime français, ni sous le régime anglais.
Mm-hmm.
Ils sont des citoyens à part. Alors, on ne peut pas interpréter le droit à l'égalité en disant, voici, là, je vous donne l'exemple, par exemple, il y a eu des conflits sur les rivières Assamont dans les années 1900, fin des années 70-80, des conflits avec les pêcheurs sportifs, des conflits avec les agents de conservation de la faune. Et quand, et à l'époque, il y avait des grands théoriciens du droit à l'égalité, des chroniqueurs de chasse et pêche, par exemple, qui étaient plutôt des porte-voix des associations des pêcheurs sportifs. Alors, pour eux autres, il y avait juste une voie à suivre. Les Autochtones n'avaient qu'à prendre leur carte de membre et pêcher comme tout le monde.
Oui.
C'était clair.
Okay.
Et toute forme de droit, revendiquer des droits, c'était discriminatoire envers les Québécois. Ben, il n'y a pas de discrimination là-dedans, dans
oui.
la mesure où ils revendiquent des droits en tant que peuple distinct. Alors, donc, on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de méconnaissances. Et puis, dans la loi, dans le livre Matérialité, je donne un peu, évidemment, d'où vient la loi sur les Indiens.
Oui, il a été vendu, ben, ou donné, je crois, là, en tout cas, 100 000 exemplaires. Ce qui veut
oui,
dire que...
Ben, il est gratuit. Les ouais, premières okay, éditions, okay. au-delà de 100 000 exemplaires. La nouvelle édition en 2019 est aussi gratuite. On travaille actuellement sur une version web là, qui devrait sortir en 2023. Là, vraiment, ça va être intéressant parce qu'on aura accès à des témoignages, à des vidéos, à des images, à des jeux, à des quiz, à des mmh. activités pédagogiques.
D'accord.
Alors, et on le fait parce que, bon, il y a eu une bonne réception et puis on pense là, que ça peut être une référence là,
oui.
véritablement utile.
Monsieur Sioui parle de l'Union des Républiques Autochtones, l'Union des Républiques Autonomes Autochtones. Alors, lui, il va loin. C'est à notre tour d'aller aussi loin. Ici, à l'université actuellement, il y a une exposition, je ne sais pas si vous la connaissez, « Les voies parallèles ».
Non, je ne l'ai pas.
C'est une grosse exposition en 15 tableaux, c'est super intéressant, avec des balados. Et puis, il y a par exemple, je voyais ça ce matin, le concept de sécurisation culturelle, qui est tout expliqué, là. Et la voie médecine, qui consiste à marcher dans la beauté, puis à bénir la beauté. Je trouvais ça très beau. C'est de la spiritualité très aiguë, là, qui nous ferait
alors,
du bien.
Alors ça, c'est à l'Université de Sherbrooke, ça?
Oui, à ce moment, oui, elle est ici, mais okay. Elle est itinérante, cette exposition-là.
Okay.
Ça s'appelle Les Voies parallèles.
OK, je ne l'ai pas vue, malheureusement.
Bien, en tout cas, je vois ça comme des enfants de, c'est des enfants de votre livre, là, Matérialité sur les peuples autochtones.
Ah oui, OK.
J'avais des questions, mais à force d'écouter, je les perds. Mais par contre, je vois à la page 139, la voie de l'autonomie gouvernementale, vous en parliez vous-même, là. Vous dites, au début de la période de prise en charge en 1970, c'était un défi colossal. Outre le changement de cap dans le domaine de l'éducation, tout, en quelque sorte, était à construire, consolidation des organisations politiques autochtones, etc., oui.
Absolument. Nous, on vivait, c'est la période où on vivait, nous, la Révolution tranquille. On prenait toute la place. Mais du côté autochtone, tout était à construire véritablement. Il y avait un éveil, mais les gens travaillaient dans l'ombre. Alors, il fallait former des gens. Hein, sortir des pensionnats, ça voulait dire former des enseignants, c'est-à-dire promouvoir les langues autochtones, développer du matériel dans leur propre langue. Puis c'est loin d'être fait encore. Il y a tellement de travail à faire. C'est un défi colossal. Et à l'époque, l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a aussi du côté de McGill pour les communautés davantage anglophones, ont travaillé justement à former des enseignants autochtones, donc à former des cohortes d'enseignants pour sortir du régime des pensionnats qui ont tellement fait mal aux communautés autochtones.
Mmh.
Et c'était la même chose dans la fonction publique. Les communautés autochtones ont pris en charge, parce que jusqu'aux années 70, le ministère des Affaires indiennes s'occupait de tout. Là. C'était vraiment l'agent des affaires indiennes était le roi et maître dans les réserves. Là.
Oui.
Mais les années 70, c'est véritablement la période de prise en charge en matière de santé, d'éducation, de services sociaux. C'est énorme. Les communautés autochtones ont plus de responsabilités que les municipalités. Hein. Les municipalités ne gèrent pas la santé, ne gèrent pas les services sociaux, ne gèrent pas le parc immobilier. Alors que les autochtones ont tout ça, la police, la sécurité publique. Alors, les gens sont partis de loin.
Oui.
Et il y a eu toute une période de flottement où, justement, les fonctions publiques autochtones avaient vraiment, véritablement besoin de formation. Il y avait vraiment un manque de ressources internes. Mais, oui, véritablement, on peut dire qu'aujourd'hui...
Monsieur Lepage, moi, j'entends pas très bien toujours. Là, on a un problème électrique, mais en tout cas... Je sais que vous regrettez dans le livre que les langues autochtones ne soient pas enseignées. Il y a un petit progrès. Par exemple, à Sherbrooke, ici, il y a un cours d'Abenaki. Moi-même, personnellement, j'ai suivi des cours d'Iroquois pendant 6 mois. Là. C'était surtout de la langue constitutionnelle que nous apprenions. Et puis, j'adorerais apprendre l'Atikamekw parce que j'ai entendu parler que c'était relié à la forêt. Et moi, en tant qu'Abitibien, la forêt, j'y tiens. Fait que j'aimerais beaucoup ça, que je pense, comme vos désirs, là, que les écoles primaires et secondaires enseignent une ou plusieurs langues autochtones. Est-ce qu'il y a des progrès dans ce sens-là, d'après vous?
Tout le problème, évidemment, c'est d'avoir des enseignants, des gens qui peuvent transmettre les langues autochtones. Et même dans les communautés autochtones, il y a quand même une pénurie d'enseignants ou de gens aptes à enseigner les langues autochtones. Il y a tout un travail à faire, par exemple. Tu sais, nous, comme Québécois, on est contents et on veut travailler dans les Québécois francophones. On veut avoir la possibilité de travailler dans notre langue.
Oui.
Dans les communautés autochtones, les gens travaillent la plupart du temps en français ou en anglais.
Mm-hmm.
Et les gens qui... souvent, moi-même, je reproche aux communautés autochtones de ne pas s'occuper de leur langue, justement, de l'avenir de leur langue. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui travaillent dans les communautés autochtones qui sont à peine capables de dire bonjour, comment vas-tu, merci et au revoir.
Mm-hmm.
Alors, et pourtant, les gens souvent travaillent. Et Souvent même, c'est un reproche que j'ai fait aux communautés autochtones et même aux institutions d'enseignement autochtones, aux écoles autochtones, de négliger l'accueil des gens qui vont travailler chez eux, de leur montrer les rudiments des langues autochtones. Mmh. Alors, il y a tout un travail à faire. Bon, maintenant, il y a de plus en plus, on voit un certain nombre de cours, mais les besoins sont énormes au sein même des communautés autochtones, justement, pour en arriver à ce que l'enseignement dans les langues autochtones, à ce que la langue du travail soit les langues autochtones. Alors là, écoutez, là, les défis sont énormes de ce côté-là.
Oui. Mais personnellement, j'ai imprimé le plan stratégique de l'Institut de Sac-Capêche pour 2021-2026, et j'ai constaté que c'est d'abord en français et c'est tout traduit en langue inoue. Alors, je les trouve très gentils. T'sais, ils nous respectent beaucoup, puis je trouve pas que nous, on fait l'inverse, là, les respecter autant sur le plan de la langue. Là. C'est à faire.
Oui, absolument, absolument. Il y a... Et c'est vrai que les langues sont menacées. Il y a quelques années, j'étais justement au Salon du livre à Sept-Îles, avec des gens de l'Institut Tchèque-Apêche. J'étais avec Evelyne Saint-Onge, puis on était assis au kiosque de l'Institut Tchèque-Apêche. Puis il y avait des gens d'Autochtones qui passaient, là, qui venaient. Ils parlaient tout en français entre eux autres. C'était fâchant, là. Moi, je me souviens d'avoir donné une conférence, justement, un forum territorial près de la rivière Moisy. Et quelqu'un m'avait posé une question. C'est quoi ce qu'on portait en tant que nation? Parce que je parlais beaucoup des questions autochtones au niveau international. Et quelqu'un me pose cette question-là. Ben, je parlais d'abord l'unité en tant que nation, qui est importante. Ça, il y a beaucoup de travail à faire au sein de la nation Innu, et chez d'autres nations également. Mais aussi la langue. Je leur disais, ben, écoutez, nous, les Québécois, là, non seulement on a la loi 101, mais on trouve que c'est pas assez, on va aller plus loin.
Oui.
D'accord. Mais vous autres, que faites-vous?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et je me souviens que des autochtones sont venus me voir après en me disant, mon Dieu, qu'on était contents que tu poses cette question-là.
OK. Ouais.
Parce que souvent, les gens, les parents, les familles, se préoccupent pas de ça. Alors, l'Institut Tchèque-Apêche travaille énormément, justement, pour qu'il y ait de la sensibilisation au sein des communautés, pour la survie de la langue, pour l'enseignement de la langue, pour l'utilisation de la langue à la maison. Alors, ils ont un grand travail à faire.
Do not know what to
de notre part, de la part des Québécois francophones, là, avez-vous des suggestions pour exprimer notre solidarité?
Peut-être la première des choses, justement, qu'on devrait comprendre, d'abord facilement comprendre, parce qu'on vit, on dit, nous, les Québécois francophones, notre langue est menacée. Puis c'est vrai aussi qu'il y a des menaces à la survie du français en Amérique du Nord. Mais on devrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour des Autochtones quand il y a 10 000 locuteurs, par exemple, qui parlent une langue. Quand il y a peu de matériel pédagogique qui est développé dans cette langue-là, quand alors on devrait avoir une très grande solidarité et tout. Oui, apprendre. Moi, je dis souvent.
Excusez-moi, il y a comme un paradoxe dans le sens que il faut les laisser être. Et en même temps, les aider. Donc, il ne faut pas trop aider. Il ne faut pas les déterminer. Il faut les soutenir dans leur autodétermination. Fait que, il faut un peu brimer notre initiative dans un sens, peut-être. Faut pas...
Oui, il ne faut pas trop aider, effectivement. Je pense que les communautés autochtones, ils ont des responsabilités importantes à faire de ce côté-là. Mais on peut apprendre des rudiments de la langue. Par exemple, je me souviens, à un moment donné, j'étais à Saint-Augustin, sur la Basse-Côte-Nord. L'autre côté de la rivière, c'est la communauté de Pakwashipi. Et puis, il y avait un Autochtone qui était là. Puis, j'ai dit, « Kwenapeo, Miama! » Et il était surpris. Il dit, « Parle indien, toi! »
OK.
Il était surpris. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait plaisir.
Oui, d'accord.
Quand on s'adresse à quelqu'un de sa langue. Vraiment. Même chose, allez-vous-en, je ne sais pas trop.
Est-ce que vous connaissez le livre de Caroline Monpetit? Elle a écrit un petit livre.
Oui, j'en ai entendu parler, puis je l'ai entendu en entrevue, mais je connais.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que.
Mais je ne l'ai pas lu encore, par exemple.
Ouais, moi, je l'ai regardé, puis il y a comme au moins une dizaine d'expressions dans chacune des 11 nations. J'ai trouvé ça bon pour nous aider. Là. Fait que je crois, M. Lepage, qu'on va terminer cette émission présentement là, parce que le temps est écoulé. Ça a été superbement éclairant et je vous remercie beaucoup. Puis moi, pour mes prochaines émissions, je vais essayer de parler d'un chapitre par émission.
C'est bien gentil. merci beaucoup. Bonne lecture à vous tous. Puis c'est un livre facile à lire.
OK. Megwesh.
Bravo. merci.
Bonjour. Oui, let's go. Bye-bye. Merci. Chers auditeurs, auditrices, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de notre émission À nous le futur. Nous étions avec Pierre Lepage, l'auteur du livre merveilleux « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » qui a été publié en 2002, mais 3 nouvelles éditions, la dernière c'était en 2019, publié à 100 000 exemplaires. Alors, je vous remercie et à la prochaine et Megwesh à tout le monde.